Vous êtes sur RTL.
RTL Midi.
Le 12-30, Christelle Rebière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce jeudi 11 février, on se tape la bise. Quel froid, jusqu'à moins 20 en température ressentie. Une pensée pour ceux qui travaillent en extérieur. C'est le cas de Béatrice qui cuisine de la paella sur le marché de Saverne dans le Bas-Rhin.
C'était terrifiant, on a eu du moins 13 avec un ressenti bien plus important. On fait abstraction parce que sinon on ne viendrait pas. Je vous le dis honnêtement, on est quand même arrivé, il était 6h moins quart. Faut vraiment pas trop réfléchir, je crois. Bon, c'est une poêle qui est énorme, hein, et donc, comme elle est au gaz, ça chauffe également, donc on était certainement des privilégiés par rapport à certains. Oh, il y en a qui ont rôdé.
Béatrice avec Yannick Collant qui n'a pas posé les gants. Bonjour Peggy Broche.
Bonjour Christelle.
Les plages bretonnes, elles, sont recouvertes d'une bonne couche blanche, la neige et le verglas s'acharnent.
Et oui, 8 départements de la façade ouest sont en vigilance neige, verglas à nouveau entre la Bretagne et le Poitou, essentiellement pour les pluies verglaçantes. Donc soyez extrêmement vigilants. La perturbation concerne toute la façade atlantique, mais sur l'Aquitaine, comme c'est plus doux, c'est de la pluie. Et pour le reste du pays, un temps sec. Mais plus on ira vers l'est, plus le soleil va s'imposer. Côté température, vous l'avez dit, c'est encore très froid. D'ailleurs, 12 départements du nord-est sont en vigilance orange grand froid. Moins 2 à Strasbourg cet après-midi, 1 à Paris, 2 à Brest, mais toujours très contrasté par rapport au sud, où les températures sont comprises entre 9 et 17 degrés. Je rappelle qu'il y a toujours 3 départements en vigilance orange cru.
Oui, et on circule mal sur le réseau secondaire en ce moment. En Bretagne, ça glisse. Des tests salivaires pour détecter le Covid sur des personnes sans symptômes. La Haute Autorité de Santé vient de donner son feu vert. Mode d'emploi à suivre. Puis nous irons à Dunkerque, où le service de réanimation de l'hôpital est saturé. Le Covid et ses conséquences, le nombre de greffes a chuté de 25% l'année dernière, faute de place dans les hôpitaux et faute de donneurs. Dans RTL Midi aussi, il n'y aura pas de quatrième terminal à l'aéroport de Roissy, projet abandonné. Alexandre de Juniac, directeur de l'Association internationale du transport aérien, sera l'invité de ce journal. Et puis un nouveau mot qui cherche à faire son apparition, parange. Parange, c'est la contraction de parents et ange pour désigner tous ceux qui ont perdu un enfant. Les académiciens s'y refusent, mais ils vont sans doute se faire doubler par les députés. La question du jour sur RTL.fr, peut-on se satisfaire d'éviter un reconfinement? Eh bien, vous êtes 51% à nous dire oui, il y a 40% de non. On attend vos arguments au 32-10. Bonjour Pascal Pau.
Bonjour, évidemment, ce sera une façon de reparler de nouveau de ce confinement ou de ce reconfinement. La reproduction des élites, il n'y a qu'un fils d'ouvrier dans la promotion de l'ENA. Et on en parle régulièrement là aussi. L'égalité des chances est-elle une réalité ou un mythe en France? Emmanuel Macron est à Nantes aujourd'hui pour promouvoir l'accès des étudiants moins favorisés aux écoles de la haute fonction publique. On pourra parler de Jean-Michel Blanquer qui est contre l'écriture inclusive. Et puis, si vous voulez déjà parler de la Saint-Valentin, une Saint-Valentin sans restaurant et sans rien du tout, eh bien, on pourra, c'est dimanche, on pourra également évoquer ce thème. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Nous sommes toujours sur ce chemin étroit, pavé de restrictions, mais qui nous permet d'éviter le reconfinement. La circulation du virus n'explose pas. Le nombre de personnes testées positives a même baissé de 5000 la semaine dernière par rapport à la semaine précédente. Mais certaines situations locales inquiètent. Et c'est le cas à Dunkerque, où le nombre de cas pour 100 000 habitants est le double de la moyenne nationale. Franck Hanson, vous êtes à l'hôpital où le service de réa est saturé.
Oui, et faute de lits disponibles, il a fallu transférer une douzaine de patients vers d'autres hôpitaux du Nord. Le nombre de malades Covid ici à Dunkerque a atteint le pic de la deuxième vague en novembre dernier. Un patient sur trois est infecté par le variant anglais, plus contagieux, mais pas forcément plus violent, confirme le docteur Isabelle Durand-Joly.
Il semble plus contagieux, notamment dans les familles, puisqu'on a aujourd'hui beaucoup de cas familiaux et de plusieurs générations. Si la tendance de cette semaine et de la semaine dernière s'aggrave, il va falloir qu'on passe à une phase de déprogrammation. Oui. Le personnel, oui, est épuisé, mais malgré tout, tient la barre, on va dire.
Le personnel soignant n'est pas non plus épargné par le virus. On sent la fatigue dans les équipes toujours mobilisées. Mylène Powell, c'est manipulatrice radio et déléguée CFDT.
C'est compliqué parce qu'il faut continuer à prendre en charge les autres pathologies et on n'a pas de moyens personnels en plus, quoi. On ne voit pas le bout. Hein. De toute façon, ça fait déjà un an qu'on est dedans et là, on a ce nouveau variant qui arrive. Enfin, on est soignant, donc on tient le coup. beaucoup, mais on a tendance à être défaitiste. Hein.
Alors que le carnaval a été évidemment suspendu, une vaste campagne de dépistage est prévue la semaine prochaine dans la cité portuaire.
Franck Hanson à Dunkerque pour RTL. Plus que jamais, il faut tester, dépister, débusquer ce virus et ses variants. Et ce matin, la Haute Autorité de Santé met en avant les tests salivaires. Leurs performances sont désormais prouvées. Mais de quoi parle-t-on ? Quelle est la technique, Sophie Orange ?
Alors, c'est toujours une technique PCR, avec donc une petite journée pour avoir les résultats. On ne parle pas des tests antigéniques rapides en pharmacie. Hein.
Mais ça n'a rien à voir.
Non, technique PCR. Sauf qu'il n'y a pas de prélèvement dans le nez, mais c'est à partir de la salive. Mm-hmm. Ça fait moins mal. La HAS les recommande pour des dépistages ciblés dans les écoles, les lycées ou les EHPAD. Mais c'est possible aussi désormais pour les personnes contacts, pour celles qui ont des symptômes et qui ne supportent pas le prélèvement dans le nez.
Bon, on l'a compris, ce n'est pas un test avec des résultats rapides, mais on pourra quand même le faire à la maison.
Oui, grande nouveauté. Hein. D'abord, il faut passer au labo d'analyse. Vous récupérez un petit kit avec un flacon, un tube, un petit peu comme pour l'analyse d'urine, hein, on connaît ça. Une fois à la maison, vous déposez de la salive dans un tube, sans cracher, sans forcer, sans se racler la gorge, sans tousser. En plusieurs fois, s'il le faut, le tube est gradué pour obtenir la quantité minimum de salive pour une analyse fiable. Attention, il ne faut pas fumer, boire, manger ou vous laver les dents 30 minutes avant le test, sinon ça risque de fausser les résultats. Si vous ne pouvez pas aller au labo tout de suite, vous conservez le prélèvement à température ambiante, pas au frigidaire. Ensuite, vous mettez le tout dans une enveloppe spéciale, vous allez au labo et vous attendez le résultat dans la journée ou le lendemain.
Bon, mais quand même, c'est le test PCR dans le nez qui reste le plus fiable.
Oui, il reste recommandé en priorité, en première intention. Dans tous les cas, les tests salivaires sont conseillés quand il faut multiplier les prélèvements en quelques jours ou chez les plus jeunes qui appréhendent l'écouvillon dans le nez et qui ont peur de la blouse blanche au laboratoire. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus on aura d'outils, mieux on dépistera et on isolera surtout les personnes testées positives.
Et ces tests salivaires, merci Sophie, seront d'ailleurs utilisés en masse dans les établissements scolaires après les vacances d'hiver et aussi à la fac. On a beaucoup parlé pendant les deux premières vagues de l'engorgement des hôpitaux et de toutes les opérations qui ont dû être reportées. Eh bien, on découvre aujourd'hui l'impact sur les greffes. Leur nombre a chuté de 25% par rapport à 2019. Avec nous, Emmanuel Corteau-Boucher. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes la directrice générale de l'Agence de la biomédecine. Avez-vous déjà connu une telle chute ?
Non, c'est une baisse qui est inédite et qui est clairement liée à l'épidémie de Covid-19 que nous avons connue et que nous connaissons encore. Nous enregistrons donc une diminution de 15% du recensement des donneurs d'organes et une baisse de 21% des prélèvements d'organes. L'épidémie de Covid-19, évidemment, a fait courir des risques supplémentaires aux receveurs de greffons, ce qui a pu conduire à différer certaines greffes. Elle a créé aussi des tensions sur les services hospitaliers qui ont pu rendre plus difficile l'exercice de l'activité de prélèvement et de transplantation. Et puis, elle a aussi conduit à écarter du prélèvement des donneurs potentiels au motif qu'ils avaient été infectés par le virus. Mmh. Et donc, pour toutes ces raisons, c'est une baisse importante et inédite que nous constatons.
Est-ce que vous avez reporté aussi des opérations ?
Alors, pendant la première vague épidémique, l'Agence de la biomédecine a recommandé de poursuivre les greffes d'organes dans les cas où la greffe est une thérapeutique d'urgence. Ça concernait les greffes de cœur, de poumon et de foie. En revanche, elle a recommandé de suspendre les greffes d'organes lorsque la greffe n'est pas une thérapeutique d'urgence parce qu'il existe un traitement de suppléance. C'est ce qui nous a conduit à recommander aux professionnels de reporter les greffes rénales et les greffes pancréatiques.
Mmh, ça, c'était celles que vous pouviez reporter, en fait.
Hein. Exactement. C'est les greffes pour lesquelles le décalage ne présentait pas de risque pour le receveur
potentiel.
Oui,
on pouvait, par exemple, poursuivre une dialyse un peu plus en attendant une greffe. Mais est-ce que ça veut dire que certaines personnes en attente de greffe sont décédées ?
Alors, nous n'avons pas observé d'augmentation de la mortalité sur la liste nationale d'attente des patients qui ont besoin d'une greffe. Pendant la très grande partie de l'année, nous avons observé en revanche une petite augmentation à la fin de l'année pour ce qui concerne les greffes hépatiques. Mmh. Alors, l'augmentation constatée concerne des patients âgés et qui ont des comorbidités qui constituent des facteurs de risque pour des formes graves de Covid. Donc, il est très vraisemblable qu'une importante partie de ces décès est liée à des infections par le Covid-19. Il est possible qu'une partie soit aussi liée à l'évolution de la pathologie, soit que le patient ait été pris en charge dans un état qui était déjà avancé, soit que la pathologie ait évolué après son inscription sur la liste d'attente.
Justement, l'épidémie est sur un plateau haut en ce moment. Est-ce que vous êtes déjà en train de reporter certaines greffes ou pas?
Alors actuellement, il n'y a pas de recommandation de report de greffe. Depuis le 11 mai, l'agence a préconisé la reprise de l'activité de greffe rénale. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les greffes de cœur, de poumon et de foie se sont poursuivies constamment en 2020, pendant toute la durée de la crise épidémique. Aujourd'hui, les greffes de reins se poursuivent sur le territoire, les greffes de donneurs vivants également. Donc il n'y a pas de recommandation qui préconise la suspension de ces activités. Et elles se poursuivent sur le territoire. Au mois de janvier 2021, nous observons certes une diminution de l'activité de transplantation, mais elle est de l'ordre de 10%, ce qui, par rapport à janvier 2020, ce qui est raisonnable compte tenu du contexte. Donc ça montre qu'il y a sans doute quelques opérations qui sont décalées pour des greffes qui ne sont pas urgentes, mais le niveau de l'activité se maintient à un degré tout à fait satisfaisant.
Bon, et on espère que ce niveau d'activité sur les greffes pourra se maintenir dans les semaines qui viennent. Merci beaucoup, merci Emmanuel Corteau-Boucher de l'Agence de la biomédecine. Merci d'avoir été l'invité de ce journal.
Merci, au revoir.
Une pause et dans un instant, pas d'extension de l'aéroport de Roissy.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Il n'y aura pas de quatrième terminal à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est un projet obsolète, dit ce matin la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili, qui ne correspond plus ni à la politique du gouvernement, ni aux exigences d'un secteur en pleine mutation. C'était pourtant un chantier colossal, estimé à environ 8 milliards d'euros. Un aéroport dans l'aéroport qui devait permettre d'accueillir jusqu'à 40 millions de passagers supplémentaires par an, Martial You.
Et oui, et 40 millions de voyageurs, c'est comme si on avait ajouté tout le trafic d'Orly en plus à Roissy. Un projet énorme donc. Mais entre-temps, eh bien, il y a eu le Covid, un secteur aérien à l'arrêt et puis la volonté de pousser des projets plus écolos. Depuis le début, les habitants et les élus du Val-d'Oise se battaient contre cette extension. En temps normal, il y a un vol par minute. Aujourd'hui, le projet rajoutait 450 survols de plus par jour. Céline Villecourt est maire d'une de ces communes, Saint-Prix. Elle pousse un ouf de soulagement ce midi. L'abandon du T4 en attendant un nouveau projet dans les années qui viennent, c'est un répit.
C'est d'abord une bonne nouvelle pour les Saint-Priciens. Ce T4, c'était 40% de vol en plus, quotidiennement, de façon nocturne également. En fait, aujourd'hui, le Val-d'Oise, malheureusement, a plein de problématiques de surcharge et sur ses autoroutes. Et avec ce projet de T4, c'était une surcharge aérienne avec des autoroutes aériennes.
Alors reste le coût social de cet abandon parce que le terminal T4 prévoyait de créer 50 000 emplois directs dans le département du Val-d'Oise. Ce matin, a priori, la priorité environnementale a eu raison de la priorité économique. C'est aussi un des effets du Covid.
Martial, merci. Le secteur aérien se retrouve effectivement face à une crise aussi imprévue qu'inédite, pris en étau entre la pandémie et le réchauffement climatique. Alors pour bien comprendre, nous sommes avec Alexandre de Juniac. Bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes le directeur général de l'Association internationale du transport aérien. L'abandon du quatrième terminal de Roissy, c'est la victoire de l'écologie sur l'économie?
C'est surtout malheureusement la défaite des compagnies aériennes face à cette crise qui est issue de la pandémie, qui est une véritable catastrophe pour notre secteur. On est probablement un des secteurs les plus touchés avec le tourisme, peut-être l'hôtellerie. Mais pour nous, cette pandémie a représenté une baisse du trafic de à peu près 68%, dont 80% du trafic international. Donc c'est un séisme sans précédent que connaît le transport aérien.
Donc ça veut dire que ça peut se reproduire sur d'autres projets d'aéroports qui, comme celui de Roissy, dont les extensions pourraient être stoppées, comme celle-là?
Ça peut se produire, puisque l'impact sur les compagnies aériennes, c'est que non seulement les compagnies ont mis à terre la plupart de leurs avions, ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer, ont lancé des restructurations massives qui ont entraîné des licenciements eux aussi tout aussi massifs, ce qui est extrêmement extrêmement difficile pour les salariés des compagnies aériennes, ont réduit leur réseau, annulé des vols, supprimé des routes, un nombre de routes considérable qu'ils opéraient auparavant, et donc le secteur s'est réduit considérablement. Donc c'est Il n'est pas surprenant qu'on voit dans d'autres parties du monde ou sur d'autres aéroports des réductions de projets, des annulations de projets.
Mais vous pensez qu'il y a beaucoup de compagnies aériennes qui ne vont pas survivre à cette crise ?
Ah bah c'est déjà le cas. On estime déjà qu'il y a 40 compagnies aériennes qui ont disparu. Encore une qui vient de disparaître hier soir, parce que la situation est trop difficile. C'est d'ailleurs pour ça que nous avons demandé l'aide massive des gouvernements, qui nous l'ont d'ailleurs accordée. On en est extrêmement reconnaissants, d'une part. Et que d'autre part, nous demandons maintenant au gouvernement, d'une part, d'étendre leur aide, au moins pour passer les 6 prochains mois, qui vont être très très difficiles, parce qu'on ne voit pas de reprise significative du trafic avant juin. C'est-à-dire avant que le vaccin ne soit effectivement massivement déployé. Et d'autre part, on demande au gouvernement de préparer le retour à la normale en tirant les conséquences stratégiques de leur politique de vaccination pour réouvrir les frontières, relâcher les contraintes qui pèsent sur le transport aérien et sur le voyage en général.
Mais vous pensez qu'en attendant, on est vraiment en train de changer d'habitude? Par exemple, je pense à la business class, qui est un des socles de rentabilité des compagnies aériennes. On voit bien qu'aujourd'hui, on fait des réunions en visio. Et à cela s'ajoute l'histoire du climat, où on a un peu honte de prendre l'avion si on suit Greta Thunberg. Donc il y a quand même ces deux choses qui font qu'on se demande si un jour on va revenir à la situation hantée ou pas.
Alors, tout dépend de du motif de voyage. Si on prend le motif de voyage personnel, disons le tourisme ou la visite de la famille ou des amis ou des proches, donc tous les motifs personnels, ce voyage-là, nous estimons qu'il reprendra assez vite. Et d'ailleurs, on l'a vu en Chine, quand les restrictions dues au Covid ont été levées, le trafic est revenu à peu près à des niveaux de 90 à 95% de ce qu'il était en 2019. Et très vite, dès le mois de novembre dernier. Donc, ce motif de voyage-là, on pense, est encore très dynamique. Sur le voyage d'affaires, comme vous le soulignez, là, on est un peu plus inquiet et on pense que le voyage d'affaires reviendra, mais avec retard, avec 12 à 18 mois de retard, pour les raisons que vous avez mentionnées, c'est-à-dire l'utilisation des outils électroniques, aussi parce que les entreprises ont beaucoup coupé dans les budgets de voyage, puis la préoccupation écologique peut jouer, l'annulation des grands événements qui sont un motif de voyage, que ce soit les grands événements, les conférences, les congrès, les grands événements sportifs, qui amenait beaucoup de gens à se déplacer, là aussi contribue à la baisse du voyage d'affaires, mais on pense que ça reviendra, mais avec retard.
À court terme, comment sortir de cette nasse ?
Pour nous, ce que nous demandons au gouvernement, parce que ce qui handicape le transport aérien, ce sont les restrictions mises par les gouvernements. Que ce soit les mises en quarantaine, les fermetures de frontières, etc. Et donc ce que nous disons, c'est qu'au gouvernement, nous comprenons que vous mettiez des mesures de restriction pour protéger la population contre la réimplantation du virus. Mais maintenant qu'il y a des vaccins qui apparemment ont une efficacité assez forte, que d'autre part les programmes de tests sont au point, la combinaison du test et de la vaccination devrait amener le gouvernement à préparer le redémarrage. En utilisant, par exemple, leur conseil scientifique pour définir des étapes à partir duquel ils lèveront progressivement les restrictions parce qu'ils considéreront que l'épidémie est sous contrôle ou que les plus vulnérables ou que les plus exposés au virus sont désormais protégés. Et donc, on demande au gouvernement, allez-y, mettez en place ce plan de réouverture et nous accompagnerons. Nous sommes prêts à faire tout ce qu'il faut pour que ce plan de réouverture fonctionne de la manière la plus efficace possible en matière de transport aérien. Les compagnies feront ce qu'il faut.
C'est une question de survie, on l'a bien entendu. Merci beaucoup Alexandre de Juniac d'avoir été l'invité d'RTL Midi.
Merci beaucoup.
La fille aînée de l'acteur Richard Berry qui accuse son père d'inceste est entendue en ce moment à Paris à la Brigade de protection des mineurs. Une enquête préliminaire avait été ouverte le 25 janvier après une plainte pour des faits qui remonteraient au milieu des années 80. Quant à Dominique Boutonnat, le président du Centre National du Cinéma, accusé lui de viol par son filleul de 22 ans l'été dernier, une information judiciaire vient d'être ouverte. Un nouveau mot qui cherche à faire son apparition en dehors du dictionnaire, parange. Parange, on en parle dans un instant.
RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Au pays de l'Académie française et du dictionnaire, la bataille pour l'apparition d'un mot nouveau est toujours une affaire hautement sensible. Et là, il s'agit d'un sujet qui ne l'est pas moins, le décès d'un enfant. Quand on a perdu ses parents, on est orphelin. Son conjoint, on est veuf ou veuve. Mais il n'y a pas de mot pour ceux qui perdent un enfant. Eh bien, ils ont trouvé le mot parange. et des députés mènent le combat pour eux en ce moment à l'Assemblée nationale. Marie-Bénédicte Allaire.
Oui, donner une visibilité sociale à ses parents, c'est la proposition des députés avec cette résolution pour faire entrer dans le dictionnaire le terme de parange, contraction de parents et ange. Nadia Bergougnou, une de ses mères, en explique la portée symbolique.
Évidemment, cela ne fera pas revenir nos enfants. Ce mot, il s'adresse à tous les parents qui ont perdu un enfant, à quelque âge que ce soit. Et j'espère que, enfin, nous allons pouvoir être nommés. Nous sommes parents.
À l'initiative de cette résolution, Mathilde Panot de la France Insoumise espère qu'elle sera reprise par le président de l'Assemblée, Richard Ferrand, et votée au plus vite pour que l'Académie française s'en saisisse à son tour.
C'est une manière aussi à la fois d'accélérer les choses, d'appuyer le combat de ces hommes et de ces femmes, et de faire en sorte que, je l'espère, le mot parange rejoigne en 2021 les nouveaux mots qui seront dans le dictionnaire.
L'Assemblée a déjà voté des jours de congés supplémentaires pour les parents en deuil. Pas de conséquences matérielles cette fois, mais un peu de baume au cœur des parents endeuillés.
Marie-Bénédicte Allaire. Football, après l'insolite parenthèse Domenech, aussi courte qu'originale, le FC Nantes change encore une fois d'entraîneur. C'est le 18e en 14 ans depuis l'arrivée du président Kita. Antoine Comboire, l'ancien défenseur des Canaries, est habitué des missions compliquées. Il va devoir relever le défi pour un club en pleine déroute, Philippe Audouin.
Oui, Nantes n'a plus gagné depuis 3 mois. 16 matchs de suite sans victoire. Une 18e place au classement en Ligue 1 qui plonge le club dans l'angoisse d'une relégation en Ligue 2. Raymond Domenech a échoué dans cette mission sauvetage ces 6 dernières semaines. Un épisode tumultueux évoqué par le directeur du FC Nantes il y a une heure maintenant, Franck Kita.
Il fallait réagir, on ne fait pas de gaieté de cœur, mais à un moment donné, je pense que la greffe n'a pas prise. Il faut savoir accepter ses erreurs et il faut réagir vite. Il ne reste pas beaucoup de matchs, mais il en reste suffisamment pour se maintenir. Et voilà.
Le défi n'effraie pas le nouvel entraîneur nantais Antoine Comboiré qui vient de s'exprimer aux côtés de son dirigeant en conférence de presse.
La pression, j'en ai toujours eu. Hein. Et la pression, elle est importante et j'aime ça. Sinon, je ne serais pas là. Je connais le contexte, je sais avec qui je travaille, mais j'ai pris donc la décision de venir. Je suis un grand garçon, je sais ce que je fais. Le club est en grande difficulté. J'ai mesuré toutes les difficultés que je vais rencontrer, mais je suis prêt à relever le défi. Et je suis là pour ça, j'ai une mission, maintenir le club en Ligue 1.
Antoine Comboiré qui a été clair sur son avenir, il restera au FC Nantes si et seulement si il réussit à maintenir le club en Ligue 1 en fin de saison.
Philippe Audouin.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
De la culture au musée, oui, mais de la culture physique. Nous partons à Besançon, au musée des Beaux-Arts. Samuel Goldschmidt, une prof de fitness et de pilates, propose des cours en visio devant les œuvres d'art.
Et oui, car forcément, les deux salles de sport de Sophie Flotelot restent désespérément fermées. Mais parmi ses élèves, le coach sportif a plusieurs employés du musée des Beaux-Arts, fermé lui aussi. L'idée est donc née de ces deux déceptions, faire vivre le sport en ligne et l'art, en installant Sophie devant une caméra dans les salles du musée.
Le premier cours, c'était devant des nus, et le deuxième cours était devant des tableaux de paysage. Bon, faut qu'il y ait de la place quand même pour mettre un tapis, et que j'évite de casser une œuvre en mettant un pied dessus.
Alors pardon, mais vous avez le musée pour vous toute seule ?
Bon, alors ça c'est génial, exactement.
Il y a un à deux cours par mois, près de mosaïques romaines, devant des natures mortes ou devant les tableaux de Gustave Courbet. Et à la fin du cours, une spécialiste du musée vient commenter les œuvres d'art en direct pendant 5 minutes. C'est ce cocktail qui connaît un succès inattendu.
On commence à être un petit peu connu, on va dire, puisque j'ai des retours de personnes qui m'envoient des petits messages en privé pour me dire que c'est génial. De Toulouse, j'ai eu des personnes de Lille, j'ai eu des personnes de Strasbourg et même de Nouvelle-Calédonie, de La Réunion. Donc ça, c'était un peu épatant.
Le Pilart est diffusé en simultané sur les pages de Sophie Flotelot et du Musée des Beaux-Arts de Besançon. Il y a jusqu'à 800 connectés par séance.
Le Pilart, c'est magnifique, Samuel Goldschmidt. On rappelle que le cerveau est aussi un muscle. Pascal Praud.
Je fais le tour de basse chaise.
Pourquoi ?
Mais parce que vous avez dit que vous aviez honte de prendre l'avion.
Ah non, pas moi. J'ai pas dit. Non, pas moi. Il n'y avait rien de personnel. Je disais que Greta Thunberg.
Oui.
Mettait en quelque sorte la honte.
Exactement.
C'est le but de ces militants. Ben, en tout cas, c'est une question que tout le monde se pose, je pense.
Est-ce que vous avez honte de prendre l'avion ?
Non,
Non, mais on va poser la question
l'avion, moi.
Aux auditeurs. Est-ce que vous avez honte de prendre l'avion? Ça peut être une bonne question, hein, du coup. Vraiment. La France peut-elle passer l'hiver sans confinement? C'est une question qu'on se pose régulièrement. La reproduction des élites, ça aussi, c'est intéressant. Il n'y aurait qu'un fils d'ouvrier dans la promotion de l'ENA. Mais vous, par exemple, vous avez fait Sciences Po, c'est très intéressant. Dans les années 85-90, vous étiez, comme nous, une Française qui arrivait de province.
J'étais exotique, vous voulez dire. Oui,
mais non, mais il n'y a pas que des fils de grands bourgeois qui sont... quand on est arrivés tous à Paris, on n'était pas, on connaissait personne. La reproduction des élites, j'avais pas ce sentiment qu'elle existait aussi fortement qu'elle existe curieusement aujourd'hui, pour tout vous dire. Donc c'est une question aussi qu'on pourra poser aux auditeurs. On pourra revenir sur la Saint-Valentin et puis le mot parent. Je trouve que c'est un très bon... Ah oui, je trouve que c'est un très très bon sujet. C'est un très bon sujet. À tout de suite.
À tout de suite. Peggy Broche, on se gèle.
Ah oui,
mais au moins la lumière est belle.
C'est vrai, vous avez raison, c'est très ensoleillé, Christelle, hein, sur une large moitié est du pays. Et plus on va vers l'ouest et plus le ciel est voilé. On a même une perturbation qui touche la façade atlantique actuellement avec de la neige et des pluies verglaçantes entre le Finistère et le Poitou. D'ailleurs, les 8 départements sont en vigilance neige, verglas. Soyez extrêmement prudents. Et en allant vers l'Aquitaine, comme c'est plus doux, évidemment, c'est de la pluie. Le vent est bien présent près de la Méditerranée et surtout en Corse, ça souffle fort. Vous l'avez dit, on se les gèle, c'est vrai, et surtout sur le nord-est. Moins 3 degrés à Strasbourg cet après-midi. Vous avez compris que ça ne va pas dégeler. Moins 3 également à Mulhouse. Moins 1 à Orléans. 0 à Lille et à Rennes. 1 degré à Paris. 2 à Nantes. 4 à Lyon. D'ailleurs, 12 départements du Nord-Est sont en vigilance grand froid, vigilance orange. Mais ça crée contraste avec le Sud puisqu'on a 13 degrés de prévu cet après-midi à Bordeaux. 14 à Toulouse. 15 à Toulon. 16 à Perpignan. Et même 18 degrés à Bastia. Et je rappelle qu'il y a toujours 3 départements en vigilance orange cru.
Bon, et demain, cocktail de saison. Pluie, neige et soleil.
C'est ça, la perturbation, en fait, elle va se retrouver demain matin entre la Bretagne et la moitié sud avec de la pluie entre la Bretagne et le sud-ouest. Attention aux pluies verglaçantes d'ailleurs entre la Bretagne sur une bande entre la Bretagne et le nord de l'Auvergne. De la neige entre les Alpes et la vallée du Rhône et du soleil sur le nord-est le matin. En journée, le soleil va gagner une bonne moitié nord du pays. Toujours pluvieux dans le sud-ouest et puis la zone neigeuse sur la région Rhône-Alpes, elle va s'intensifier, glisser vers les Alpes du sud. On pourrait avoir jusqu'à 10 cm de neige à Lyon, par exemple. Les températures, eh bien, elles seront quasi stationnaire.
Mais ça va dégeler un peu en Bretagne ou pas?
En Bretagne, ça ira mieux demain. Bon, mais les températures vont rester froides. On n'est pas encore sur du dégel pour l'instant, malheureusement. Demain,
merci. Qu'est-ce qui se passe?
Mieux.
Demain, oui.
Le meilleur est toujours à venir, vous savez mieux. Allez, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Il est 13h.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Alexandre qui est infirmier. Est-ce qu'on peut passer l'hiver sans reconfinement, Alexandre?
Eh bien, bonjour Pascal. J'espère vraiment qu'on va passer l'hiver sans reconfinement. C'est pas un infirmier qui vous parle, c'est le papa d'une adolescente de 16 ans. Et je la vois déprimée de jour en jour et je m'inquiète de plus en plus. Et c'est vraiment horrible ce qui se passe pour nos jeunes.
Eh bien, tout de suite, Alexandre, Christelle, le rappel des titres.
De la neige et du verglas en Bretagne, conditions de circulation compliquées dans toute la région et dans les Pays de la Loire. Des bus à l'arrêt à Brest et Quimper, un réseau secondaire très difficile. Le port de la Trinité-sur-Mer est sous la neige. Même chose pour la plage de la Baule. Marc-Antoine y est pharmacien. Il admire ce paysage inédit.
J'ai jamais vu la Baule comme ça. On a 4-5 cm de neige, je pense. On voit un petit peu de sable dans le fond de la baie, sinon je vois que de la neige. Tout est blanc. Je marche, on voit comme mes traces de pas, mais on voit plus en dessous, quoi. Donc je fais attention à pas tomber. Un émerveillement, un petit peu imprévu. Je pensais pas que ça allait prendre de telles proportions. C'est vraiment magnifique. C'est des belles choses de sa vie et je pense que ça va remonter le moral de pas mal de monde. Ça rappelle un petit peu les bons souvenirs. La dernière fois que j'ai vu ça, j'avais 10 ans. Donc, la dernière fois que j'ai vu ça, voilà. Maintenant j'ai 30 ans.
Marc-Antoine avec Juliette J. Pactole en vue pour le groupe pharmaceutique britannique AstraZeneca. Bénéfice net record de 3,2 milliards de dollars. Il a doublé en un an. Et en plus, son vaccin est désormais soutenu par l'Organisation mondiale de la santé. Feu vert pour les tests salivaires dans les écoles et les universités. Ça va permettre de multiplier les grandes opérations de dépistage. Mais la Haute Autorité de Santé recale les tests rapides qui donnent des résultats en 40 minutes. L'extension de l'aéroport de Roissy est abandonnée. Elle est jugée obsolète par la ministre de la Transition écologique, Barbara Pompili.
Les auditeurs ont la parole.
Pascal Praud.